Bonjour tout le monde, vous êtes bien à l'écoute de Fracture, Fracture, une émission des luttes, Fracture, une émission d'histoire et d'actualité sociale. Vous êtes sur Pulsar 95.9. Fracture est toujours confinée, mais on se laisse pas abattre. Ici Julo, bonjour Daria et Robin.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va discuter prison et éducation. Le programme est chargé, alors on lance tout de suite les brèves à l'attaque.
Ah là là, vous savez ces gens-là, hein ? Ils sont impatients. Voilà, le v'là. Alors les PTT, ça marche ?
Des brèves, qui veut les brèves ?
Alors, quelques brèves aujourd'hui. Violence policière à l'encontre d'exilés et non-respect du droit d'asile à la frontière gréco-turque. Notamment avec pas mal de violences, on a pu voir quelques images. Il y a donc eu le lancement d'une campagne par au moins 120 organisations. Cette campagne s'appelle « La xénophobie et le racisme d'État tue l'Union européenne aussi ». C'est une campagne à retenir et à retrouver et à soutenir via les internets, notamment sur le Twitter, hashtag violence frontière gréco-turque. Une petite errata de la semaine dernière, on avait mal retranscrit certains propos du conseil départemental relatif au RSA. Donc la semaine dernière, on a dit que les bénéficiaires du RSA allaient bosser gratos sur les chantiers de l'ARENA et du 35e collège du département, des chantiers qui dépendent du conseil départemental qui verse le RSA. Le département parle en fait de travail rémunéré. Ce n'est pas la même chose. Violence policière et confinement, ça bouge pas mal dans les quartiers. On a pu voir à Limoges très récemment, mais aussi il y a quelques temps à Strasbourg, à Bordeaux, en Seine-Saint-Denis, notamment des violences suite à des arrestations policières violentes. On aurait souhaité aborder le sujet un peu plus amplement, mais on n'oublie pas que ça se passe et on en reparlera très certainement une prochaine fois. Sur le front des thunes un petit peu, si on peut dire, le gouvernement l'avait mis en avant histoire de faire passer la pilule pour ceux qui doivent encore travailler en pleine épidémie. On parle de la fameuse prime de 1000 euros, la fameuse prime Macron. Mais au final, pas dit que grand monde la touche, cette fameuse prime, car en tout cas, dans la grande distribution, ils ont clairement montré qu'ils n'allaient pas la verser si facilement et qu'ils sont en train de revenir dessus, en évoquant une sélection sur le temps de travail et les conditions de travail. Bref, ça sent l'enfumage et il n'est pas exclu qu'il faille aller chercher l'argent soi-même à un moment donné ou pas. Par contre, un peu plus réjouissant, dernière brève aux États-Unis, au moins 300 employés d'Amazon ont décidé mardi d'appeler à la grève pour dénoncer leurs conditions de travail. On salue cette initiative que l'on soutient bien fortement. Et ce sera tout pour ces brèves d'aujourd'hui.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur le plateau confiné de Fracture en compagnie de Robin, nous retrouvons Rosa, Julie et Sylvia. Alors, on va discuter éducation en période de Covid-19, enseignement sous confinement. Qu'en disent les enseignantes et les enseignantes sur ce sujet? Alors, je vais vous laisser vous présenter et puis nous allons commencer.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Julie Vineau. Je suis professeure de lettres, de FLE et de FLS au LP2I, le lycée pilote innovant international de Genet-Marigny.
Bonjour, moi je m'appelle Rosa et je suis enseignante de primaire.
Et bonjour, je m'appelle Sylvia et je suis professeure d'espagnol en collège.
Donc merci de vous joindre à nous pour l'émission et puis pour cet exercice. Alors, notre cher président, dans sa première allocution datant du 12 mars, annonçait la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Notre ministre Blanquer a embrayé le 13 mars sur cette fermeture d'établissement en disant: nous organiserons une continuité pédagogique qui implique toute la communauté éducative, c'est-à-dire les professeurs, l'ensemble des adultes autour des élèves et les élèves eux-mêmes, selon une modalité à distance. Et Blanquer précise: je veux qu'aucun élève ne reste au bord du chemin, qu'aucun retard ne se réalise. Alors on parle ici bien sûr de la fameuse continuité pédagogique.
Eh oui, cette fameuse continuité pédagogique, alors on vous propose de commencer cet échange sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez et voilà, comment vous avez réagi globalement à ces annonces?
Eh bien, je dirais que les maîtres mots un peu de cette continuité pédagogique ont été l'impréparation et le manque de lisibilité des consignes. On n'a pas vraiment eu des consignes claires. Il y a eu les annonces jeudi soir du président Macron en annonçant la fermeture des écoles. Vendredi, les collègues avec la direction s'est réunis pour voir un peu comment mettre en place ça. On s'est bien rendu compte qu'on manquait des consignes, de modalités pour mettre en place la continuité pédagogique à distance. Et puis chacun s'est un peu débrouillé comme il a pu. On a eu les premières consignes du corps d'inspection début avril, donc 2 semaines après que les écoles soient fermées. Donc oui, je pense que la plupart des collègues se sont un peu débrouillés comme ils ont pu. Et voilà, et on a beaucoup regretté le manque de consignes claires et le renvoi au local, un peu comme pour la réforme du bac, hein, où chacun s'organise un peu, chaque établissement s'organise un peu comme il peut. Puis évidemment, les inégalités que la continuité pédagogique crée, tout simplement.
Alors après, on reviendra un peu plus tard sur les fameuses inégalités sociales liées aux inégalités pédagogiques, évidemment. Est-ce que Rosa, du coup, dans le primaire, comment les enseignantes ont réagi à ces annonces?
Alors moi, ce qui m'a frappé tout d'abord, c'était le slogan, en quelque sorte, qu'on a entendu de la part des différents niveaux de la hiérarchie, au point de vue par mail ou par même YouTube, puisque notre hiérarchie nous envoie aussi des messages où elle se filme par YouTube. C'était « ce n'est pas les vacances, ce n'est pas les vacances, ce n'est pas les vacances ». Ça m'a frappé que ce soit la première réaction et le premier slogan qui soit envoyé, comme s'il y avait une hantise, que là, tout de suite, ça soit considéré comme des vacances. Voilà, ça m'a beaucoup frappé, ça. Et après, moi, je suis dans un cas un peu particulier, c'est que je suis malade, j'ai un problème pulmonaire, justement, depuis un petit moment. Donc, je suis en arrêt maladie depuis début mars. Donc, et j'ai eu la chance, je dis la chance parce que ça n'arrive pas tout le temps, d'être remplacée. Donc, il y a une autre enseignante qui a assuré tout de suite la continuité pédagogique à ma place. Et moi, au bout de quelques jours, en accord avec elle, en lien avec elle, en fait, on s'est débrouillé pour que je suive en quelque sorte la moitié de la classe par téléphone et que je les aide, en fait, que je relaye le travail de ma collègue qu'il faisait par Internet et avec des moyens numériques. Moi, en fait, par exemple, je photographie cet écran, l'écran sur lequel, où apparaît le travail qu'a fait ma collègue. Je l'ai photographié, je l'ai envoyé par téléphone, en fait, aux familles concernées. Et pour les familles qui ne peuvent pas lire, puisqu'il y en a quand même pas mal qui ne peuvent pas lire, je veux dire, les photos, tout simplement, avec leur téléphone, je leur ai envoyé, je leur ai retranscrit par SMS. Voilà. Mais donc ça a été possible que parce qu'on était deux aussi. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de liens avec les familles par téléphone, ce que je pense qui était très bien pour les familles, je crois. Enfin, j'ai eu des retours très positifs. En revanche, je ne sais pas si c'est le moment d'évoquer ça, mais... dans mon école, ce qui a été organisé, c'est une continuité pédagogique avec un travail qui était mis en ligne tous les jours, chaque jour en fait, par l'intermédiaire du site de l'école. Et il m'a semblé, au travers des coups de fil que j'ai eus très réguliers avec les familles, donc la moitié des familles de ma classe, encore une fois, que c'était assez stressant pour beaucoup de familles, cette cadence en fait de tous les jours. Voilà.
Du coup, Julie, pour le lycée, est-ce que du coup toi aussi cette idée de attention, vous n'êtes pas en vacances, on a pu voir le message aussi de Sibeth Ndiaye, les enseignants qui travaillaient pas et qui pourront aller ramasser des fraises. Comment toi t'as réagi
Oui, on pourrait en rire si on n'avait pas le sentiment que c'était un avis partagé par la plupart de nos dirigeants et dirigeantes. Après, moi, ce qui m'a atterré, outre effectivement une pression qu'on sentait, puis on y reviendra, mais moi j'ai la double casquette, et mère d'élève et professeur, et j'ai bien senti la pression qu'avaient les institutrices, enfin les professeurs des écoles de mes enfants, hein, qui ont fait un travail phénoménal, mais je ne sais pas comment elles ont tenu le coup. Et de notre côté, on sentait aussi une pression, mais qui était un petit peu filtrée par l'équipe de direction. Et en fait, c'est aussi ça. Donc le deuxième point qui me semble très important d'évoquer, c'est que malheureusement, il n'y a pas eu de directive ministérielle forte pour diriger les équipes de direction qui elles-mêmes donneraient des indications précises à leurs enseignants et enseignantes, ce qui fait que on se retrouve sur le territoire français avec une multiplicité de pratiques dont certaines sont dangereuses. On a laissé des professeurs en roue libre avec donc voilà la pression de faire beaucoup d'exercices, pas de décisions collectives dans les établissements, donc pas de décision quant au fait qu'on faisait ou pas des évaluations pendant la période de confinement. Alors Jean-Michel Blanquer après a dit tardivement que c'était évidemment pas préconisé, mais il l'a dit plus tard, et sur le suivi pédagogique, etc., on n'a pas eu de directive claire tout de suite, donc je pense que le danger était là en fait.
Du coup, on voit bien que donc il y a évidemment le manque de consignes, on va dire générales, puisqu'on est dans une institution où la plupart des choses se font de manière descendante. Ça part de la tête et ça descend vers la base. Donc, vous avez répété à plusieurs reprises que du coup, il n'y a pas eu de consignes générales. Et alors, comment ça s'est retranscrit finalement dans le rapport à la fois aux outils numériques et puis dans le contenu qui était destiné aux familles? Du coup, Rosa, tu avais commencé à parler de ça, de travail au jour le jour.
Oui, je pense que les modalités, elles ont été un peu, forcément, oui, chacun a fait comme il a pu, en fait, et a décidé, et il me semble juste, donc ça, c'est par rapport à mon école, mais aussi à mon entourage, à des témoignages d'amis ou de proches, prof à différents niveaux, que chacun a essayé de faire au mieux, mais qu'au début, ça c'est peut-être plus chez les profs, et donc là je ne suis pas concernée directement, mais a donné beaucoup, mais dans mes collègues aussi d'ailleurs, a donné beaucoup de travail en fait, avec l'idée que c'était peut-être un double sentiment, la préoccupation de ne pas être une feignasse en gros, d'en faire assez, d'en faire beaucoup, justement de montrer qu'on était là, et puis peut-être aussi quand même, je crois aussi bien sûr, d'être présent pour les familles, d'être présent pour les enfants, de les accompagner, de ne pas les laisser seuls, de ne pas les laisser désemparés face à cette situation. Et moi ce que j'ai perçu, et d'ailleurs aussi à titre personnel avec mon propre enfant qui n'est qu'en moyenne section et qui recevait aussi du travail tous les jours par son enseignante, c'est que en fait ça produit, enfin je pense que ça vient d'un très très bon sentiment, mais ça produit quand même une sorte de stress quoi, d'avoir cette chose tous les jours, parce que c'est dans les faits c'est très dur à faire en fait, c'est très dur à réaliser ce travail journalier. Et voilà, pour moi, pour les familles des élèves que j'ai pu contacter, c'était trop. Et donc, voilà, ce que j'ai compris, c'est que dans mon entourage aussi, il y a d'autres écoles où ça s'est fait différemment. Ça s'est fait, par exemple, une fois par semaine, où les enseignants ont décidé de mettre quelque chose une fois par semaine. Et il m'a semblé, moi, dans les retours, encore une fois, que c'était beaucoup plus mentalement, psychologiquement, pour les familles, souvent, d'ailleurs, les femmes, hein, c'était beaucoup plus possible à gérer, en fait, parce qu'on se sentait plus maître de son temps et de son organisation, si c'était sur une semaine avec les enfants. On était moins rappelé tous les jours. Voilà, c'était plus facile d'avoir du pouvoir sur l'organisation de son travail quand c'est une fois par semaine.
Par rapport à cette surcharge de travail, pour toi, Sylvia, comment ça s'est traduit ? Du coup, je rappelle que toi, du coup, tu es enseignante au collège, donc les enfants sont un peu plus vieux, mais pas forcément totalement autonomes.
Non, bah justement, la différence d'autonomie, c'est les criantes, hein, au collège, au lycée, en primaire, c'est justement, on ne parle pas de la même problématique. Est-ce que les parents sont là ou est-ce qu'ils travaillent encore? Est-ce qu'ils sont disponibles pour leurs enfants ou non? Est-ce qu'ils ont fait des études aussi parfois qui leur permettent d'aider leurs enfants ou non? Donc les problématiques sont très différentes, hein, si on parle de primaire, de collège ou de lycée. Après, pour revenir sur ce que Rosa disait, c'est vrai que je pense qu'il y a eu une surcharge de travail énorme au début du confinement, parce que c'est vrai qu'on s'est... On a tous eu ce message, hein, de ce n'est pas de vacances, pour nous non plus, justement, c'était très clair qu'il fallait qu'on soit là, qu'on fournisse du matériel, donc tout le monde a été là, tout le monde a donné des choses à faire, certainement trop, et on s'est vite retrouvé, voilà, avec des échanges avec des familles qui se retrouvaient submergées par le travail, donc les enfants, et même nous aussi, entre collègues, on a eu énormément d'échanges. où on se disait un peu le voilà comment on se sentait débordé parfois parce que on avait énormément de mails d'élèves justement, ils ont des problèmes, comment je fais ça ou comment j'arrive pas à ouvrir le document, etc. Voilà, des choses comme ça qui sont techniques parfois ou parfois plus compliquées, mais qui sont là, c'était une réalité nouvelle pour tout le monde, donc ça a été difficile. Et après voilà, c'est pour ça que après il y a des établissements qui se sont peut-être réunis un peu et qui ont un peu discuté pour trouver des pratiques communes. Ce n'est pas forcément le cas partout. C'est là où on en revient au manque de consignes du ministère où tout est renvoyé au local, à l'établissement par établissement. Donc, il y a des établissements, voilà, qui se sont rendus compte de ce problème de charge de travail et qui ont décidé, voilà, de, comme disait Rosa tout à l'heure, de ne donner du travail qu'une fois par semaine pour que toutes les familles puissent s'organiser, pour que nous aussi, ce soit plus simple à gérer après les demandes individuelles des élèves, hein, des questions, etc. Mais ce n'est pas le cas partout et je pense que c'est difficile. C'est une réalité très difficile pour les familles de suivre l'enseignement à distance. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'enseignement à distance aussi ? Voilà, ce serait une question aussi importante.
Oui, effectivement, là, ce que vous faites, ce que vous soulignez, c'est que finalement, de la hiérarchie, du ministère, ce qui est descendu, c'est surtout beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup d'injonctions à continuer le travail, à essayer d'avancer coûte que coûte, sans forcément donner que ce soit des moyens, sans beaucoup de consignes vraiment bien précises, mais voilà, surtout cette injonction à avancer. Finalement, ce qui a mis beaucoup de pression, j'ai l'impression, sur à la fois les enseignants, les élèves, les parents et finalement tout le monde. Et tout le monde s'est retrouvé un petit peu voilà, sous pression. Et d'ailleurs, ça nous amène au deuxième point sur justement la façon dont toute la vie a dû être réorganisée à la maison pour justement essayer d'assurer cette continuité pédagogique, que ce soit du côté des parents et des enfants et comme du côté des enseignants. J'imagine qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui se sont retrouvés dans la situation de devoir à la fois gérer le travail à la maison et potentiellement des enfants. Dans des lieux qui sont peut-être pas forcément adaptés pour à la fois travailler et vivre. Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé de votre côté pour cette organisation justement du travail à la maison ? Je ne sais pas si Rosa, tu veux commencer à nous en parler ?
Là, plus que d'un point de vue personnel, moi, j'avais une idée par rapport à une maman, par exemple, une famille que j'avais souvent au téléphone, qui a trois enfants. Ben, elle, en fait, elle a cherché à réorganiser sa maison donc elle est seule avec ses trois enfants qui sont tous en primaire. Elle a cherché à réorganiser sa maison j'imagine qu'elle avait deux chambres pour les enfants, en consacrant une en fait à faire une salle de jeu, en déplaçant tous les meubles. Donc il y a plusieurs fois où je l'ai appelée et en fait c'est ça qu'elle faisait quoi, à déplacer les meubles, les couchages dans une des chambres pour faire une autre chambre, faire une sorte de salle de jeu où les enfants puissent parce qu'ils n'avaient pas de jardin, donc un appartement quoi, dans un immeuble, pour qu'ils puissent jouer tout ça. Et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée. Mais effectivement, par exemple, au téléphone, avec les différentes familles, c'était souvent un problème qui était évoqué, quoi, avoir la place, un endroit pour justement faire le travail, c'est vraiment compliqué. Et aussi, bien sûr, le problème technique, de l'équipement technique, quoi, évidemment. Moi, les familles que j'ai eues au téléphone, j'en avais 10, et ben il y en avait 8 ou 7 qui n'avaient pas d'ordinateur en fait, donc où tout le numérique passait par le téléphone en fait. Donc voilà, et ce qui n'est pas forcément facile et qui n'est pas le plus simple. D'autant plus que donc c'était un téléphone pour parfois pas mal d'enfants. Plusieurs enfants en tout cas, et les parents aussi. Donc voilà, bien sûr, c'est très compliqué.
Et de ton côté, Sylvia, dans l'organisation du travail à la maison, est-ce que ça a été compliqué à mettre en place et est-ce que tu as eu des retours d'élèves, au niveau du collège ou de parents d'élèves, qui ont fait part de difficultés à s'organiser à la maison ?
Eh bien oui, des difficultés à s'organiser, oui, beaucoup surtout. Pour justement pour gérer la charge de travail dont on parlait tout à l'heure, et puis aussi pour gérer les outils numériques comme Rosa disait tout à l'heure, et la multiplicité d'outils et d'applications qui ont été mises en place. Est-ce que Est-ce que le travail est donné dans un logiciel, dans le logiciel qu'on utilise d'habitude dans les collèges et lycées pour donner le travail, ou est-ce que ça passe sur l'ENT, ou est-ce que c'est un Moodle ou un Padel, ou à, voilà, il y a plein de choses différentes. Donc ça a été très difficile à gérer pour les élèves, d'où justement le besoin aussi de trouver certainement des pratiques communes pour moins les perdre et pour que ce soit plus simple à gérer à distance. Et après, sinon, personnellement, pour la charge de travail, au début, oui, c'était très difficile. Comme on disait tout à l'heure, la quantité de fois qu'on donne du travail par semaine, les échanges avec les élèves, appeler des familles aussi parfois qui sont en difficulté face à un travail donné ou justement un téléchargement d'un document, etc. Donc, c'est beaucoup de temps passé. Mais voilà, je pense que petit à petit, on trouve le rythme. Et voilà, mais oui, ça n'a pas été évident au début surtout.